Bonjour à tous, bonjour Jonathan.
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Dans cette vidéo, on vous va mettre l'accent sur les applications d'entreprise. Depuis le début des applis de Windows 8, on a mis l'accent pour les développeurs sur le développement des applications plutôt orientées grand public. Le framework WinRT, les outils de développement étaient effectivement plus orientés sur ce type de développement. Depuis la build, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites sur les nouveautés qui ont été apportées pour les développeurs d'applications entreprises. Et donc, on va vous montrer avec Jonathan comment on va pouvoir moderniser finalement les applications d'entreprise. On va avoir trois moments et ces trois moyens de moderniser son application d'entreprise. C'est la première, comment on va pouvoir maintenant facilement accéder au loopback de sa machine pour pouvoir interagir avec un service qui va tourner localement. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir référencer du code qui a déjà été développé et écrit à partir du code .NET historique depuis une application desktop. Et le troisième aspect, c'est comment gérer la partie notification alors qu'on est dans un contexte entreprise et que notre application n'est pas dans le store public. Donc Jonathan, je te propose de commencer par le premier aspect, la partie loopback. Et alors, avant de commencer la partie technique, est-ce que tu peux me donner quelques scénarios? Dans quel contexte finalement une application moderne a besoin d'accéder à le loopback de sa machine?
Oui, alors ce qu'on se rend compte, c'est que nos clients aiment beaucoup l'interface métro, sauf que migrer une application existante vers du métro, c'est assez compliqué, ça peut être long. Puis on aimerait le faire peut-être par morceaux, commencer par une partie, voir si ça marche bien, puis continuer petit à petit. Donc là, le scénario qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir souvent une application desktop qui est existante, et puis une application métro un peu plus moderne avec une interface plus ergonomique. Et la problématique qu'on rencontre, c'est de faire communiquer ces deux applis, parce qu'on a le même contexte de travail, on aimerait passer de l'un à l'autre assez facilement tout en partageant du contenu. Bah, le loopback, ça va justement permettre d'adresser ce besoin. On va avoir l'application desktop qui est capable d'héberger un service WCF ou TCP, etc. Et puis, si on active le loopback, l'application métro, elle va pouvoir communiquer avec cette application et partager des données. Voilà exactement le scénario qu'on couvre.
Alors, comment ça va se passer concrètement finalement? Depuis mon application ou depuis Visual Studio, je pourrais référencer mon service. Alors, quelque part, je le faisais déjà parce que quand je suis en mode de développement, même quand je suis sur une application qui est destinée au grand public, je le faisais, cette partie référencement d'un service local. Mais là, je le fais localement, mais même finalement, quand je serai en production, ça va continuer à appeler du service local.
C'est ça. Lorsqu'on a un debug dans Visual Studio, c'est désactivé par défaut la protection. Parce
D'accord.
qu'en réalité, c'est le firewall qui bloque la connexion. Et maintenant, depuis Windows 8 point d'ailleurs, il y a des outils qui existent pour permettre de désactiver cette limitation. Donc on a plusieurs façons de le faire. Soit on va le faire par PowerShell, soit on a des API qui sont disponibles. Donc si on veut faire un exécutable qui va pouvoir le faire pour nous. Et puis il y a aussi la possibilité d'aller sur CodePlex où il y a déjà un utilitaire déjà fait pour débloquer les applications auxquelles on veut activer l'accès au loopback.
Donc finalement, cet accès au loopback, je vais le désactiver au moment de l'installation de mon application. Donc, ou comme tu disais, Script PowerShell, c'est l'administrateur qui va justement l'insérer au moment du setupage de l'application. Ou alors effectivement, un exé qui pourra via les API le débloquer, pareil au moment de l'installation ou au moment d'un setup.
Voilà.
Tu peux nous montrer un peu ça en musique, comment ça se passe?
Hop. Alors on passe sur Visual Studio. Il va y avoir en fait deux applications. Donc là, je suis parti sur une application console. C'est notre application historique avec le code qui fonctionne, etc.
D'accord.
Et dedans, je vais juste créer un service WCF. Donc j'ai ma définition de l'interface WCF. J'ai l'implémentation de mon interface WCF. Ça, quelque chose de classique sur lequel on ne va pas rester longtemps. Et puis mon programme là, il est assez simple. La seule chose qu'il fait, c'est exposer ces deux services sous un format TCP sur le localhost. Donc là, on est bien sur le localhost, le port 8888. Et oui.
D'accord, donc tu viens prendre un projet existant, tu lui rajoutes le fait de pouvoir écouter sur un protocole, que je puisse du coup appeler à partir d'interface quelques éléments techniques qui sont déjà codés dans ton application existante.
Exactement. Là, on est parti sur du WCF, mais on aurait pu très bien partir sur du REST, sur une autre API, ce qu'on veut en fait.
D'accord.
On a un port qui est ouvert pour se connecter. Donc là, je vais démarrer le projet, je start, et là, j'ai mon application console qui tourne et qui écoute sur les deux ports.
D'accord.
Du coup, j'ai cependant mon application métro qui est là. Et puis dans mon application métro, c'est du code, vous voyez, on référence que le .NET pour les applications Windows Store et le framework Windows Store. Et dedans, j'ai du code WinRT et je vais pouvoir instancier un service WSF que j'ai déjà référencé ici.
D'accord, donc là on le référence de la même manière que ce qu'on faisait quelque part sur des références de services externes.
C'est
Donc là, ça
exactement le
sera
même
local,
code.
mais même en production, ça restera local.
Voilà, exactement. Et du coup, après, je peux appeler mes méthodes de façon classique. Là, j'appelle pour récupérer les gens et je fais le traitement que je veux avec ces données. Donc là, on va exécuter le code et on va vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai une application démo et je vais pouvoir récupérer la donnée XML hop, depuis mon service WSF et depuis mon application. Et mon application historique, elle fait ce qu'elle veut, elle me renvoie juste des données qu'elle expose. Elle peut utiliser tout à fait Entity Framework, des données SQL Compact, SQL Server, tout ce qu'on veut en fait. Elle fait ce qu'on veut.
Très bien. Donc, du coup, on va avoir, on va dire, je dirais, deux restrictions. La première, c'est que, évidemment, ça va tourner sur des machines de type Intel, puisque la partie WSS ne tournera pas sur une plateforme ARM. Et évidemment, ces applications ne seront pas acceptées au store. Donc, c'est vraiment à destination de déploiement d'entreprise.
Tout à fait.
La deuxième partie, c'est de pouvoir directement référencer des DLL historiques .NET depuis une application moderne. On l'a vu à l'instant. Tu as été obligé, Jonathan, de quelque part rajouter une interface et d'exposer depuis ton application console un petit mécanisme qui permet justement de faire cette communication réseau entre l'application moderne et l'application historique. Notre deuxième point, c'est directement de pouvoir référencer cette DLL. Alors, on va directement faire ça sur un cas concret, comme ça on verra les différentes étapes qui ne sont pas du tout les mêmes pour justement appeler ces DLL-là de manière directe depuis notre projet moderne. Prenons un cas. Quel est ton cas qui est relativement simple hein, c'est de pouvoir accéder directement à une base de données, comme on l'avait un petit peu tout à l'heure, mais cette fois-ci, je voudrais manipuler mes datasets, non pas à distance, mais je veux les manipuler directement dans ma DLL, dans mon projet moderne.
Voilà. Alors pour faire ça, moi j'ai besoin d'un composant qui s'appelle dataset et qui est que dans le framework .NET. Voilà, donc là, je manipule de l'XML, je le fais directement dans ma DLL, mais je pourrais très bien référencer une DLL historique qui le faisait
Qui
pour
le
moi.
ferait directement dans la DLL.
J'ai pas de souci pour ça. Donc j'utilise dataset dans cette méthode qui s'appelle retrieveData qui me renvoie un tableau de string que je lis. Ça, c'est ce que j'aimerais utiliser dans mon application WinRT. La problématique que j'ai, c'est que mon application WinRT, elle connaît que WinRT, elle a besoin d'avoir un composant WinRT pour faire cet appel. Donc ce qu'on va faire, c'est juste déclarer une interface de ce que fait ma DLL. Donc là, elle expose une méthode qui me renvoie un tableau de string. Ouais, il n'y a rien de spécifique et je vais juste déclarer ça. Donc du coup, j'ai créé un composant WinRT. Donc dans Visual Studio, j'ai créé un nouveau projet qui est un composant WinRT.
D'accord. Sauf que ce que je vois ici dans ton code, tu utilises dataset qui est reconnu et que tu vas réussir à compiler cette DLL qui est normalement purement WinRT, alors que dataset n'appartient pas à WinRT.
Voilà.
Donc est-ce que tu le références, tu fais un using?
Alors pour le référencer, j'ai utilisé le template qui est dans la galerie de Visual Studio qui me permet de créer un composant WinRT pour le broker de Windows Runtime qui en fait me rajoute automatiquement les références vers le framework .NET. Je peux les
D'accord.
rajouter à la main si j'ai besoin, mais j'ai déjà le template qui est disponible.
Donc en fait, tu as un composant WinRT, mais auquel on a autorisé le fait de référencer des DLL.NET qui ne sont pas des DLL WinRT.
Voilà, tout à fait.
OK, donc un petit peu comme tout à l'heure, cette fois-ci, tu as créé une interface pour évidemment qu'un projet moderne puisse accéder à cette DLL WinRT un peu particulière, parce qu'elle encapsule du .NET natif.
Exactement.
Donc du coup, est-ce que tu peux nous montrer ça côté moderne?
Hop, c'est parti.
Normalement, ça doit être du coup extrêmement simple.
Donc voilà, c'est une application Windows classique. Je vais ajouter une référence qui est mon composant WinRT. Donc là, il est
D'accord.
là. Mon Fabricam, c'est mon WinMD que j'ai rajouté. Pour lui, c'est un composant WinRT, donc il n'y a pas de problème. Il l'ajoute en référence, il le reconnaît. Ça va me permettre de connaître les signatures des méthodes que je vais pouvoir appeler.
Que tu as exposé tout à l'heure via l'interface.
Voilà.
Mais il y a un petit mais quand même dans le manifeste, il faut faire quelque chose de particulier.
Voilà, il y a un petit mais. Là, on a fait juste la déclaration et maintenant, il faut dire, voilà, cette implémentation, elle est à tel endroit. Donc, ce
D'accord.
qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'on fait à la main. On va éditer le manifeste ici, en version XML, et puis on va rajouter une extension qui est assez classique. On va dire que on va utiliser une classe qui a setId. Ça, c'est quelque chose qu'on a déclaré côté exposition WinRT précédemment. Et puis, on va dire que je vais ouvrir un petit peu plus grand pour que tout le monde puisse voir. Je vais dire que l'implémentation de cette classe qui a setId, elle est définie et présente dans tel dossier. Donc, vous voyez, je vais chercher quelque chose qui est sur mon bureau. Et automatiquement, lorsqu'il va faire appel à mon composant WinRT, lui, il va activer la classe qui est située à tel endroit. Et donc, il va appeler ma DLL.NET depuis cet endroit.
Très bien. Comme tout à l'heure, je vais te poser la même question. Quel scénario on peut couvrir justement avec cette technologie?
Alors, il y a plusieurs avantages par rapport à l'ouverture du loopback. Là, c'est on a une DLL qui peut être appelée. Donc, on a un bout de code qui est réutilisable. On n'est pas obligé de le bloquer à une seule application moderne UI. Il peut y avoir plusieurs applications modernes qui vont appeler la même DLL. Donc, ça, c'est écrire des bouts de code qui vont être réutilisables sur de différentes applications.
Même d'ailleurs si je n'ai pas forcément les codes sources, puisque je pourrais directement référencer une DLL.NET et du coup créer une petite interface pour y accéder. Alors que tout à l'heure, on a vu qu'il fallait quand même modifier, même si on pouvait l'exposer, mais ça reste plus dans l'esprit .NET de référencement DLL.
Voilà, exactement. Là, on a juste la déclaration de l'interface à proposer à l'application WinRT et on le consomme. Donc ça, c'est le premier avantage. Et puis le deuxième avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas, il n'y a personne qui a besoin de lancer le service WCF ou l'autre application existante pour déclarer une communication réseau. Là, l'application moderne, quand elle a besoin de consommer la DLL, elle va l'instancier automatiquement et utiliser ses méthodes. Et une fois que cette DLL est chargée en mémoire, elle fait ce qu'elle veut, elle a accès à tout .NET. Donc elle peut très bien faire des choses comme s'abonner au changement sur du système de fichiers. Et puis à chaque fois qu'on va voir qu'il y a un nouveau fichier qui est ajouté à un dossier ou à l'autre, on va être capable d'envoyer un message à notre application WinRT. Puis, comme elle n'a pas tout à fait le même cycle de vie, l'application WinRT, elle va être réveillée automatiquement par le composant .NET qui, lui, continue de tourner. Et du coup, elle va pouvoir faire un traitement, afficher des informations à l'utilisateur, afficher des toasts, etc. Donc, c'est un scénario beaucoup plus évolué où on va être capable de réveiller automatiquement une application WinRT, alors que classiquement, dans une application grand public, elle reste suspendue.
Elle reste suspendue. Très bien. Donc effectivement, avec cette technologie, donc qui est le broker Windows Runtime, on va pouvoir supporter des scénarios un peu plus avancés que simplement l'ouverture de loopback. Tu viens de nous parler Toast. On a dit tout à l'heure le troisième aspect. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport justement à cette partie notification pour les applications toujours entreprises?
Voilà, une autre problématique, c'est tout ce qui est les notions de push notification. Dans le contexte d'une entreprise, on était assez bloqué, on n'avait pas vraiment de solution. Et là, une annonce qui a été faite à la BUD, c'est que toutes les applications, même les applications sideloadées, vont être capables d'utiliser WNS, qui est le service de notification de Microsoft. Et il suffit de déclarer son application sur le store, on va récupérer un ID, ça c'est le processus classique de notification, et ça va fonctionner, même sur une application sideloadée. Donc on bénéficie de toute l'infrastructure Microsoft pour le service de push, mais sans avoir l'application rendue publique.
Sans les contraintes de la rendre publique. Surtout dans ces contraintes-là, puisqu'on a vu que la modification là, du manifeste, par exemple, tout ce qui est WAC, évidemment, directement, va être refusé pour dire que justement, c'est des scénarios qui ne sont supportés que pour le déploiement en entreprise.
Tout à fait.
Voilà, petit rappel, hein, les trois choses importantes à noter pour les applications d'entreprise, l'ouverture du loopback. Le fameux broker Windows Runtime qui permet de référencer des DLL natifs et la partie notification qui est maintenant supportée pour les applications d'entreprise. Merci Jonathan et à bientôt pour de nouvelles vidéos.